Chapitre 10. Une vision. Lorsque la première violence de cette crise de douleur fut un peu calmée, Camilla essaya encore de prier et elle éprouva que rien ne pouvait contribuer davantage à la tranquilliser. Elle demanda qui était le pasteur du lieu et s'il aurait la charité de venir prier auprès d'une mourante qui n'appartenait point à sa paroisse. Peggy répondit qu'il était très humain et ne refusait jamais ses secours spirituels aux plus pauvres habitants de son canton. Camilla la pria de l'aller chercher. En attendant son arrivée, elle se coucha sur son lit et tâcha de prendre un peu de repos. Il était presque nuit, elle restait seule, et le cadavre sanglant qu'elle venait de quitter frappait encore vivement son imagination. Le sommeil s'empara un instant de ses facultés épuisées, mais au lieu de repos, elle éprouva de nouvelles terreurs. Elle crut voir la hideuse figure de la mort appuyant sur elle sa main décharnée. Elle voulut crier, mais la voix lui manqua. Cette main, lourde et froide, achevait de glacer son cœur. Tandis qu'elle faisait en vain de faibles efforts pour se débarrasser de cet épouvantable fardeau, elle entendit une voix lugubre qui lui dit « Tes souhaits vont être exaucés. Cesse tes murmures et réjouis-toi, tu vas mourir. » Un instant après, une autre voix plus claire et plus perçante lui fit entendre ces mots « Où vas-tu et d'où viens-tu ?» Une troisième voix qu'elle sentit partir de son sein répondit d'un ton tremblant « Puissais-je trouver où je vais le repos et ne plus porter mes regards sur le lieu que je quitte? J'ai abandonné ceux qui m'ont donné le jour, j'ai négligé, rejeté le soin de ma propre vie. » Une autre voix sonore et terrible prononça d'un ton épouvantable « Tu es venu sans être appelé, tu n'as pas rempli ta tâche. » Tu n'as pas gagné le repos et la paix que tu demandes. Suis-moi, les registres de l'éternité sont ouverts. Écris de ta main tes demandes et tes titres à la miséricorde. » Saisie de cuisants remords, elle s'écria « Non, non, je ne signerai point ma propre condamnation. » En vain, elle voulut résister. Il fallut céder à une force invisible. Elle vit les immenses volumes de l'éternité. Sa main saisit involontairement une plume de fer et écrivit rapidement ces mots. « J'ai manqué de résignation, j'ai invoqué la mort, je l'ai désiré pour me soustraire à des peines personnelles et j'ai abandonné à la plus vive douleur un père et une mère qui m'idolâtraient. » Elle voulait fermer les yeux pour ne pas apercevoir les lignes effrayantes qu'elle traçait malgré elle. Mais ils restèrent ouverts et les lettres s'enflammèrent. Elle voulut tourner la tête. Les caractères de feu suivaient la direction de ses regards. La terrible voix se fit encore entendre. « Voilà, dit-elle, tes titres. Écris tes demandes et tourne le feuillet, tu trouveras ton jugement. » « Oh non, non, laissez-moi retourner sur la terre, laissez-moi tâcher de mériter par mes œuvres d'être reçue dans le port qui repousse les murmures de l'impatience et accueille les supplications du mortel qui endure ses maux avec résignation. » Elle supplia, se prosterna, mais en vain. Le temps était passé, elle l'avait négligé lorsqu'il était à sa disposition. Des milliers de voix répondaient à ses humbles prières. « Tu as appelé la mort !» Sa main, toujours malgré elle, saisit encore l'instrument de fer. Le livre était ouvert pour recevoir ses demandes. Elle écrivit difficilement et sa plume ne laissait point de traces visibles. Lorsqu'elle eut fini, le papier resta blanc. Des milliers, des millions de voix s'écriaient ensemble « Tourne et tu trouveras ton sort !» Le feuillet tourna sans qu'elle y portât la main, mais elle s'éveilla. Elle tremblait si violemment qu'elle agitait son lit. Il était baigné d'une sueur froide et son cœur oppressé croyait encore sentir les serres de la mort. Son imagination était troublée au point qu'elle ne savait lequel du passé ou du présent était un songe. Elle resta dans cet état de stupeur et d'incertitude, n'osant ni appeler, ni remuer, et même à peine respirer, jusqu'au moment où la petite Peggy entra doucement dans sa chambre. Assurée alors de sa situation, « Ce n'était, dit-elle, qu'un songe, mais sa source était dans ma conscience, et elle y est encore. » Lorsqu'elle fut plus calme, elle demanda si l'ecclésiastique allait venir. Peggy avoua en hésitant qu'on ne l'avait point été chercher. Sa maîtresse supposait que cette demande était l'effet de la frayeur causée par la vue du cadavre et qu'après quelques instants de sommeil, il n'en serait plus question. « Hélas, dit Camilla, il est plus nécessaire que jamais. Ma tête est en délire et je suis entre la vie et la mort. » Elle envoya Peggy assurer Mistress Marle que les secours spirituels pourraient seuls tranquilliser un peu son esprit. Mistress Marle vint elle-même et, après s'être informée de sa situation, elle lui demanda si elle était sérieusement déterminée à recevoir la visite de l'ecclésiastique, qu'il était venu par hasard et qu'il hâterait ses prières si elle pouvait la calmer. « Oh oui, elles me calmeront !» répondit Camilla. Elle voulut se lever et se mettre à genoux, mais ses forces ne le lui permirent pas. Elle resta couchée sur son lit. Peggy tira ses rideaux, de peur que la lumière qu'on avait apportée ne lui fatiguât la vue. Mais lorsqu'elle entendit Mistress Marle dire « Entrez, monsieur, voici un livre de prière !» Elle se rappela que son père remplissait souvent ses devoirs et, fondant en larmes, elle cacha son visage sous son oreiller. Mistress Marle plaça la lumière aussi éloignée du lit qu'il lui fut possible. Et lorsque Camilla fit signe de la main qu'elle était préparée, « À présent, monsieur, dit-elle, s'il vous plaît. » À peine eut-il commencé et prononcé d'une voix un peu tremblante, « Ô Père des miséricordes !» qu'on entendit sortir du lit une exclamation. Il s'arrêta. Camilla garda le silence. Il poursuivit. Mais au premier mot, Camilla s'écria d'une voix faible « Ah, ciel !» Elle essaya de lever la tête, mais elle n'en eut pas la force. Elle entr'ouvrit le rideau pour regarder, et au même instant, il s'approcha du lit, jeta les yeux sur elle, et s'écria d'une voix qui semblait sortir de son âme « Camilla !» La violente émotion qu'elle éprouva lui rendit assez de force pour fermer le rideau. Elle cachait son visage et, à travers les sanglots qui se faisaient entendre, elle prononça « Oh, Edgar !» Il n'entreprit point de rouvrir le rideau, mais se jetant à genoux auprès du lit, il s'écria en poussant un profond gémissement « Grand Dieu !» Il s'arrêta et, après avoir fait retirer Mistress Marle et Peggy à l'autre bout de la pièce, « Camilla, lui dit-il, quelle affreuse calamité a pu vous conduire ici ?» « Parlez, je vous en conjure. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi seule? Ah, parlez de grâce, parlez !» Il entendit pleurer, mais elle ne répondait point. Et avec une véhémence excitée par les vives angoisses qu'il éprouvait, « Ne me refusez pas, dit-il, votre confiance. Rappelez-vous notre longue amitié. Oubliez tout ce qui a pu la troubler. Par tout ce qui vous est cher, au nom de la générosité qui vous est si naturelle. Camilla !» « Camilla, votre silence déchire mon cœur !» Camilla n'avait pas la force de parler. Cependant, ne pouvant résister à ses instances, elle lui tendit la main par l'ouverture du rideau. Presque anéanti de surprise et de douleur, Edgar saisit sa main, la pressa dans les siennes et l'arrosa de ses larmes. Camilla, trop faible pour supporter une nouvelle sensation si vive et si imprévue, retira sa main. La violence de son agitation semblait la menacer d'une crise. Mistress Marle s'approcha d'elle et Mandelbert, considérant la chambre où il avait trouvé Camilla, sortit en se tordant les mains de désespoir.